VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 24 août 2022. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. L'Angola vote aujourd'hui pour choisir un président dans un scrutin annoncé serré. Au Togo, l'armée dit avoir repoussé une nouvelle attaque terroriste dans le nord du pays. Le président somalien promet une guerre totale contre les islamistes Shebab. Téhéran a fait des concessions sur des points clés dans les négociations sur le nucléaire iranien, selon Washington. Les États-Unis vont fournir une nouvelle aide militaire d'environ 3 milliards de dollars à l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les Angolais se rendent aux urnes aujourd'hui pour des législatives qui vont déboucher sur l'élection d'un président. La pauvreté, l'inflation et la corruption sont au cœur des préoccupations des électeurs, Abdourahmane Dia.
L'Angola, deuxième exportateur de pétrole d'Afrique subsaharienne et troisième exportateur de diamants du continent, reste pourtant l'un des plus pauvres. Selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Ce mercredi, les électeurs auront à l'esprit cette question dans ce pays où la richesse côtoie la pauvreté en plein Luanda, qui a du mal à cacher cette disparité. Nous les pauvres, nous ne gagnons rien. Mon fils a étudié et maintenant il est à la rue parce qu'il n'y a pas de travail. Fulmine Madalena Mondolé, cette habitante de la capitale. Je suis très en colère, avouant qu'elle allait voter pour celui qui allait lui donner un emploi sans le nommer. Dans le quartier de Viana, à la périphérie de Luanda, d'où elle est originaire, l'exaspération et le désespoir sont palpables. Tout est cher, les prix grimpent et on gagne des miettes, se plaint Gabriel, 37 ans. Nous votons depuis des années et ça ne marche pas. Le président João Lourenço et son principal adversaire de l'opposition, Adalberto Costa Junior, espèrent gagner l'électorat jeune et largement pauvre. Le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, de Lourenço, est au pouvoir depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1975.
Au Togo, l'armée a affirmé hier avoir repoussé une attaque menée lundi soir par des groupes armés terroristes et qui a fait quelques blessés dans le village de Blamonga, dans l'extrême nord du pays, Clermont-Ringibourg.
Lundi, vers 22h temps universel, les forces de défense et de sécurité de l'opération Kunjo-Are ont été une fois encore victimes d'une attaque complexe sur une patrouille qui a sauté sur une mine artisanale dans le village de Blamonga, a déclaré le lieutenant-colonel Samasusu sur une radio privée. Le chef du bureau de la communication à l'état-major a précisé que les membres de groupes armés terroristes ont ensuite ouvert le feu sur les soldats togolais qui ont riposté. Les échanges de tirs ont duré plusieurs minutes avant que les terroristes se replient au Burkina. Il s'agit de la cinquième attaque perpétrée depuis novembre 2021 dans cette partie du Togo, mi-juillet. Une attaque sanglante a été menée par des individus armés non identifiés selon l'armée et qui avait fait entre 15 et 20 civils tués selon des médias locaux.
Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a promis mardi une guerre totale pour éliminer les islamistes radicaux Shebab dans sa première déclaration à la nation depuis la sanglante attaque d'un hôtel à Mogadiscio ayant fait au moins 21 morts et 117 blessés. Dans un communiqué, il a invité son peuple à se préparer à une guerre totale contre ces gens sans pitié qui sont hostiles à notre paix. Et puis, les Soudanais en ont assez des promesses et ont soif de justice, c'est ce qu'a plaidé hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, dit regretter le recul de la coopération des autorités soudanaises. Jacques Aristide.
Karim Khan est en tournée au Soudan. Hier, il a rencontré Mohamed Hamdan Daglo, le numéro 2 du régime militaire. Un tête-à-tête est prévu aujourd'hui avec le général Abdel Fattah Burhan, arrivé au pouvoir lors du coup d'État d'octobre dernier. Au Darfour, le procureur de la CPI a visité trois camps de déplacés, dont Kalma. Tant les progrès réalisés avec le début du procès contre un ancien chef de la milice Janjaweed Première personne à être jugée devant la CPI pour les atrocités commises au Darfour il y a près de 20 ans, Karim Khan a toutefois appelé à accélérer l'action. Le cauchemar de milliers d'habitants du Darfour n'est pas terminé, en partie en raison de l'absence de justice. Justice qui nécessite des actions, pas des mots. Ils en ont assez des promesses, a déclaré le procureur. Il est d'avis que la coopération a fait un pas en arrière ces derniers mois, exhortant Khartoum à fournir un libre accès aux documents d'intérêt pour les enquêtes de la CPI et aux témoins clés. Karim Khan a d'autre part demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se rendre au Soudan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les électeurs de New York et de Floride ont choisi leur candidat aux élections de mi-mandat de novembre lors des primaires et des élections spéciales. Le point avec Lionel Gahima.
À New York, les démocrates ont choisi Jerry Nadler plutôt que Caroline Maloney lors de la primaire des législatives de mi-mandat. De son côté, le député démocrate Sean Patrick Maloney a remporté une dure bataille primaire contre un sénateur d'État plus progressiste. Dans le nord de l'État de New York, les démocrates ont célébré la victoire de Pat Ryan lors d'une élection spéciale pour terminer le reste du mandat du démocrate Anthony Delgado, qui a quitté le Congrès pour devenir vice-gouverneur de New York. En Floride, le député Charlie Crist a remporté la primaire démocrate au poste de gouverneur devant Nikki Fried. Il va défier le gouverneur sortant, le républicain Ron DeSantis, cet automne dans une campagne que ce dernier considère comme la première étape vers une éventuelle course à la Maison-Blanche. Charlie Crist, un démocrate modéré, a été gouverneur républicain de la Floride il y a 10 ans. Il espère rallier les électeurs de banlieue de Floride alors que les démocrates cherchent à inverser une tendance perdante dans cet État. À noter que la Floride pourrait avoir sa première sénatrice noire si la députée Val Demings, une ex-policière qui a remporté hier la primaire démocrate, si elle venait à battre le républicain Marco Rubio.
Les républicains ont indiqué mardi que l'Iran avait fait des concessions sur des points clés, ravivant les espoirs d'un retour à l'accord sur le nucléaire de 2015, même s'ils n'ont toujours pas donné leur réponse formelle aux propositions iraniennes. Selon un haut responsable américain, Téhéran a notamment abandonné sa demande visant à bloquer certaines inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique, un sujet ultra sensible de part et d'autre, sans toutefois préciser lesquels. L'armée américaine a annoncé avoir bombardé mardi des bases de milices pro-iraniennes dans l'est de la Syrie. Ces frappes ont eu lieu dans la province de Deir ez-Zor et ont visé des infrastructures utilisées par des groupes affiliés aux gardiens de la Révolution, a déclaré le porte-parole du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient dans un communiqué. Les gardiens de la Révolution sont sur la liste américaine des groupes terroristes. Ces frappes de précision visent, selon le colonel Buccino, à défendre et protéger les forces américaines d'attaque, comme celle menée le 15 août dernier par des groupes soutenus par l'Iran, a dit le porte-parole. Plusieurs drones avaient alors attaqué une base avancée de la coalition anti-djihadiste, selon les Américains qui n'avaient déploré aucune victime. La fête nationale de l'Ukraine intervient ce mercredi sous forte tension, 6 mois après le lancement de l'invasion russe, au moment où les États-Unis vont annoncer une nouvelle aide militaire de 3 milliards de dollars, la plus élevée jamais octroyée à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre ce qu'il a appelé des provocations russes répugnantes et des frappes brutales. Dans les premières heures de ce 24 août, des explosions ont retenti dans plusieurs villes comme Kharkiv, Zaporizhia et Dnipro, selon les autorités locales. Mardi matin, l'ambassade des États-Unis à Kiev avait averti que la Russie pourrait davantage encore bombarder ces prochains jours l'Ukraine et recommander aux citoyens américains de quitter dès maintenant le le pays. Une policière a plaidé mardi coupable d'avoir fourni de fausses informations ici aux États-Unis afin d'obtenir un mandat de perquisition dont l'exécution avait conduit à la mort de Breonna Taylor, tuée par un policier, et d'avoir ensuite menti pour se couvrir. La Minute Éco, Mohamedou Humpha.
Le Burkina Faso vient de se doter de sa première usine de production pharmaceutique spécialisée dans la production de médicaments génériques. Mardi, le premier ministre burkinabé a visité cette usine, construite en périphérie de Ouagadougou, par des acteurs du secteur privé et baptisée Pro-Pharm. Elle va commencer par produire dans les prochains mois du paracétamol 500 mg, du fluoroglucinol, ainsi qu'un kit de sel de réhydratation orale et du zinc pour le traitement de la diarrhée, a expliqué le directeur général de l'usine. Air France est épinglé pour non-respect des protocoles lors d'incidents en vol. Le bureau d'enquête et d'analyse, autorité française responsable des enquêtes sur les accidents d'avion, a publié mardi un rapport dans lequel elle souligne la récurrence d'incidents lors desquels les règles de sécurité ont été ignorées par des équipages de la compagnie aérienne. Air France a assuré prendre en compte l'ensemble des recommandations du rapport, ajoutant qu'un audit sera engagé d'ici quelques mois. En Algérie, Noureddine Bédoui, ancien premier ministre du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été écroué mardi par la Cour d'Alger pour des faits de corruption, rejoignant deux de ses prédécesseurs en prison. Après la chute de Bouteflika en 2019, la justice a lancé une série d'enquêtes sur les affaires mêlant les hommes de son entourage. Plusieurs anciens responsables politiques et opérateurs économiques ont été condamnés, notamment pour des faits de corruption.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Eric Manirakiza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football, le cas Cristiano Ronaldo continue de faire débat à Manchester United.
Tout juste après la victoire des Red Devils, quasiment sans le concours de CR7 lundi face à Liverpool d'un 1, remplaçant mais pas à vendre, encombrant mais avec un rôle dans le futur, en installant le quintuple ballon d'or sur le banc à l'entame du choc face aux Reds, le coach néerlandais a pris un risque, finalement payant, tout en alimentant le débat concernant l'avenir d'un joueur dont le comportement prête à polémique depuis le début de la saison. La star portugaise n'est entrée en jeu qu'à la 86e minute. Manu a donc décroché sa première victoire en championnat, au grand soulagement de l'entraîneur Eric Ten Hag, que les deux défaites inaugurales, 1-2 face à Brighton et 4-0 à Brentford, avaient déjà fragilisé le trio offensif Marcus Rashford, Jadon Sancho, tous deux buteurs, et Anthony Elanga, qui a donné satisfaction lundi. Il sera sans doute compliqué pour Ronaldo de retrouver à court terme une place dans le 11. Même si le discours de Ten Hag se veut apaisant lundi, le technicien a salué le recrutement du milieu Casemiro en provenance du Real Madrid, censé apporter du leadership sur le terrain.
Kevin Durant va rester aux Nets, affirment les dirigeants de l'équipe.
La star de la NBA, Kevin Durant, qui avait réclamé cet été un départ de Brooklyn, va finalement continuer chez les Nets. Il reste 4 ans de contrat, a annoncé mardi le manager de l'équipe. Ce message vient mettre fin à un feuilleton qui a agité les Nets et par rebond toute la NBA. De nombreuses franchises avaient tenté d'attirer Durant lorsqu'il avait réclamé le 30 juin d'être transféré. Les Boston Celtics, finalistes de la saison passée, le Miami Heat, les Denver Nuggets, les Memphis Grizzlies ou encore les Toronto Raptors avaient entamé des négociations avec les Nets selon plusieurs médias. L'ailier de 33 ans, un des tout meilleurs joueurs de la Ligue, 2 fois champion avec Golden State, 12 fois All-Star, avait ensuite demandé le départ de Nash et Marks début août, selon ESPN.
Athlétisme, chute mortelle d'un trailer brésilien de 60 ans.
Un coureur brésilien de 60 ans participant à l'une des épreuves de course en montagne organisée cette semaine par l'Ultra Trail du Mont Blanc est mort après une chute dans la nuit de lundi à mardi, ont indiqué les organisateurs et les secours. L'épreuve a été maintenue et toutes les équipes participant à la course ont été informées de la situation. Il s'agit d'une épreuve d'ultra endurance pédestre par équipe de 300 km et 25 000 mètres de dénivelé positif. Voilà, et c'est tout pour les sports, Idrissa.
Eric Manirakidza, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La coopération sécuritaire et la lutte contre les groupes djihadistes qui opèrent dans le Sahel était au cœur de la visite du ministre nigérien de la Défense au Burkina Faso. Alkassoum Indatou, accompagné de son homologue du Burkina, le général Barthélémy Sempore, a été reçu en début de semaine par le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba. Les deux pays ont appelé le Mali à revenir dans le cadre de la coopération sécuritaire régionale. Pour en parler, Abdourahmane Dia a joint à Ouagadougou l'analyste et chercheur en sécurité, Mahamadou Sawadogo.
Vous savez que le fuseau central est composé du Burkina, du Mali et du Niger. Et l'absence du Mali fait que ce fuseau central ne peut pas très bien fonctionner. Et aussi dans la lutte contre le terrorisme et le terrorisme violent, on ne saurait gagner cette lutte sans l'intégration du Mali et sans la participation active du Mali. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali est incontournable et fait partie intégrante des stratégies de la développer dans l'ensemble des États.
Mais la coopération entre le Niger et le Burkina a permis, dans le cadre de l'opération Tanli 3, de neutraliser une centaine de terroristes au mois d'avril. Est-ce que finalement ce type de coopération directe entre armées n'est pas finalement plus efficace qu'une organisation régionale comme le G5?
Oui, je pense que ce type de coopération directe est beaucoup plus efficace, moins lourde, et je dirais même encore moins budgétivore, parce qu'il y a une coalition des forces et des moyens, et qui permet de fixer des objectifs à court terme, et aussi de sécuriser une bande frontalière commune, donc, alors que les deux groupes ont des intérêts communs. Donc ça fait qu'il y a une convergence d'intérêts, et c'est ça effectivement qui permet d'obtenir des résultats. Et à mon avis, l'ensemble des pays devraient plutôt privilégier la coopération bilatérale qui est beaucoup plus efficace que la mise en place de structures et d'organisations qui est assez lourde et difficile à financer.
Alors, le ministre de la Défense du Niger et du Burkina également, tous les deux estiment qu'il faut occuper le terrain. Alors, c'est une tâche difficile au vu de la superficie dont on parle ici et aussi de la porosité des frontières. Comment est-ce qu'il faudrait s'y prendre, selon vous?
Alors, je dirais que le Niger a quand même une expérience dans l'occupation du terrain. Vous savez, le territoire est beaucoup plus grand que le territoire burkinabé, mais le Niger contrôle une large part de son territoire, en tout cas, la presque totalité de son territoire comparé. Donc, peut-être que le Burkina pourrait bénéficier de la stratégie de technique utilisée par le Niger pour occuper ce vaste territoire. Et que c'est la meilleure stratégie. Et si nous voulons gagner le terrain, c'est de l'occuper, et l'occuper militairement, mais aussi que l'administration soit présente après la fin de certaines zones. Et c'est ça qui va déterminer une lutte définitive de terrain dans la victoire.
Mahamadou Sawadogo, joint dans la capitale burkinabé.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le président angolais João Lourenço devrait obtenir un nouveau mandat lors du scrutin national du 24 août. Les analystes estiment cependant qu'il s'agira des élections les plus serrées depuis plus de 20 ans et que son adversaire, Adalberto Costa Junior, a peu de chances de gagner face au parti présidentiel encore dominant sur la scène politique angolaise. Les portraits des deux hommes avec Dilidico.
Ancien militaire formé en ex-URSS, João Lourenço a pris la tête de l'Angola il y a 5 ans, succédant en douceur à l'ancien homme fort José Eduardo dos Santos, qu'il avait désigné comme dauphin. La victoire en poche, Lourenço lui a rapidement tourné le dos en lançant, à la surprise générale, une vigoureuse campagne anticorruption. João Lourenço, chef du MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a commencé sa carrière politique pendant la lutte pour l'indépendance, puis la guerre civile angolaise. À 68 ans, le président sortant a de bonnes chances d'être réélu ce 24 août, même s'il a peiné à tenir les promesses de son premier mandat. Le fer de lance de sa campagne électorale reste la lutte contre la corruption.
Notre mandat a été un mandat pendant lequel nous avons brisé certains tabous, en commençant par le tabou de la lutte contre la corruption.
Face à la faible popularité du MPLA dans un contexte d'inflation et de pauvreté grandissante, le candidat de l'opposition, Adalberto Costa Junior, 60 ans, connaît un grand succès auprès des partisans du changement. Sur les réseaux sociaux, le chef du parti UNITA est devenu une figure appréciée. En un peu moins d'un an, cet ingénieur électrique de formation a réussi à rallier plusieurs partis d'opposition autour de lui. Connu pour son charisme et son éloquence, il a multiplié les sorties tout le long de la campagne et s'est montré proche des Angolais.
Vamos respeitar os vínculos.
Un gouvernement avec une majorité parlementaire de l'UNITA respectera les partenariats. Nous sommes des défenseurs de la Constitution. Nous augmenterons les salaires des forces armées.
Écoles, hôpitaux, santé, telles sont les promesses du candidat d'opposition. Seront-elles suffisantes pour détrôner le président sortant João Lourenço ? Les Angolais sont appelés aux urnes ce 24 août pour les législatives qui détermineront le vainqueur de la présidentielle angolaise.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition énergétique et le débat sur l'exploitation du pétrole et du gaz en Afrique. Lors de la COP26, plusieurs pays occidentaux et des organismes s'étaient engagés à ne plus financer de nouveaux projets d'énergie fossile à l'étranger, tout en encourageant les investissements dans les énergies renouvelables. Des pays africains, grands producteurs de pétrole, s'y opposent. Des environnementalistes craignent une catastrophe climatique si la RDC exploite son pétrole dans la zone de la cuvette centrale. L'Afrique et ses ressources énergétiques face aux défis climatiques, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Élection générale en 2023 au Gabon, la société civile appelle à un scrutin plus honnête et plus crédible. Réuni en congrès pour 3 jours de débat avec les forces politiques, le consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie s'engage pour le suivi de ces élections l'année prochaine. Le compte-rendu de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Les élections générales de 2023 sont un tournant pour l'histoire politique du Gabon. La société civile veut jouer sa partition avant, pendant et après ce scrutin.
Nous passons d'un constat que les élections passées au Gabon depuis 30 ans, notamment celles de 2016, ont été entachées de graves irrégularités, de violences post-électorales.
Ces violences pour circonscrire les vieux démons que Georges Paga et ses compagnons du consortium appellent à clarifier le processus dès à présent.
La société civile se veut une force de proposition pour faire en sorte que les élections à venir de 2023, prévues en 2023 au Gabon, soient les plus crédibles, les plus inclusives, les plus honnêtes et qui correspondront certainement aux standards internationaux. C'est notre volonté, la crédibilisation du processus électoral.
À en croire les organisateurs de ce premier rendez-vous, il s'agit d'une démarche inclusive. Bruno Georges Ngoussi, porte-parole du consortium de la société civile pour la transparence électorale et la démocratie au Gabon.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous devons amener tous les Gabonais à réfléchir ensemble afin de mettre en place des instruments qui peuvent désormais gérer nos institutions. Parce que dans un pays qui a des institutions fortes, ce pays-là est un pays équitable, un pays de droit où il fait bon vivre. Et c'est ce que nous voulons du Gabon aujourd'hui.
Dans la salle du Congrès, très peu de figures reconnues de la classe politique, mais pour le parti du Réveil citoyen, abrégé PCR, ce sont les absences qui parlent d'elles-mêmes. Yvonne Alexandre Biyango est porte-parole du PCR.
Écoutez, on ne parle pas pour ceux qui ne sont pas là. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que ceux qui sont ici ont décidé de faire en sorte que l'année prochaine soit différente. C'est simple. Vous comprendrez le langage silencieux des uns et des autres. Nous ne pouvons pas vouloir travailler pour le bien-être des Gabonais et ne pas participer à des réunions, à des rassemblements qui permettent à ce que l'on trouve des solutions effectivement pour ce peuple.
Ce sont donc 3 jours de débats et de discussions entre la société civile et les partis politiques, toutes tendances confondues. La fin des assises sera sanctionnée par la signature d'un mémorandum d'entente sur l'organisation des futures élections au Gabon. Libreville, Ismaël Obionzi pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les États-Unis apportent un appui matériel au ministère de la Culture de la Côte d'Ivoire par un don de quelque 76 200 dollars, près de 45 millions de francs CFA, au Musée national du costume de Grand Bassam, la cité balnéaire au sud-est d'Abidjan. Un reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Du matériel de régulateurs de tension électrique, des supports d'exposition, des caméras de surveillance, des boîtes de protection, des appareils électroniques sont un don de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire pour les travaux d'équipement et de sécurité du Musée national du costume de Grand Bassam d'un coût global de 45 millions de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, s'est dit heureux de cette contribution qu'il juge modeste mais stratégique.
Ce don aide à protéger les acquis, la collection et à vraiment véhiculer les richesses culturelles que le musée abrite.
Pour le conservateur du Musée national du costume de Grand Bassam, c'est un geste qui vient réduire les difficultés de protection des œuvres d'art du musée. Docteur Tizier Bikofi.
On vient de nous enlever une épine du pied. Nous sommes juste là en bordure de la mer et les emprunts marins s'attaquent aux collections. Et donc, le fait, par exemple, de les mettre dans les boxes, ça arrête les emprunts marins.
La ministre ivoirienne de la Culture, Françoise Remac, souligne qu'au-delà de son caractère culturel, le musée est un véritable atout économique.
La culture a un impact direct sur le développement économique de notre pays. Nous devons également nous adapter aux nouveaux métiers et à la formation de ces acteurs culturels au numérique est presque une obligation pour demeurer compétitif.
Une caméra professionnelle vient aussi aider à la production des contenus audiovisuels. Et selon le conservateur en chef, Dr Tizier Bikofi.
La culture même est sur le terrain. C'est de monter des documentaires, recueillir des données pour la postérité.
Le musée du costume de Grand Bassam est une source d'identité vestimentaire du peuple ivoirien. Le coordonnateur technique Ange-Martial Nouon explique.
Quand on vient au musée, c'est venu découvrir leur propre histoire. Parce qu'à travers les costumes qu'on présente, chaque costume nous permet de rentrer dans l'intimité d'un peuple de Côte d'Ivoire.
Il relève aussi le taux de fréquentation du musée.
Par année, l'affluence tourne autour de 10 000 personnes. Et il y a une fluctuation au niveau du taux de visite en semaine, mais à partir du week-end, il y a un boom.
Le musée national du costume a été créé en 1981, mais le bâtiment qu'il abrite est une autre pièce du musée, car il date de 1893, donc de l'époque coloniale. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Ronanira Lionel Gahima. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.